C'est un espace de culture, d'ouverture et surtout de lecture. En 2024, la librairie des Volcans fête ses 50 ans d'existence, dont 10 ans sous forme de société coopérative et participative, autrement appelée SCOP. Située près de la Maison de la Culture, c'est tout simplement la plus grande librairie de Clermont-Ferrand, 1683 mètres carrés remplis de livres, d'outils artistiques et d'objets culturels. Cette année, pour son double anniversaire, les Volcans veulent mettre le paquet pour souffler leurs bougies. Et pour en parler, nous sommes avec Philippe Pelade. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir sur AVA. Alors, on aimerait bien sûr revenir déjà sur la jeunesse des Volcans. Comment est-ce que est née la librairie des Volcans dans les années 70?
Alors, la librairie des Volcans, telle qu'elle existe, qu'elle existait à l'époque, est une création pure et simple qui date de l'année 1974. Autrefois, à sa création, le magasin était beaucoup, beaucoup plus petit et il s'est agrandi au fil des décennies. Successivement avec le fondateur, M. Genest. Et puis, peu à peu, au fil des rachats, parce que cette librairie a été rachetée de nombreuses fois, c'est toute une, je dirais, une succession de propriétaires qui ont pris la tête de cet établissement. Et jusqu'au début des années 2000, où l'enseigne Priva dirigeait la structure. À cette époque, en 2005, il y a eu la création justement d'un étage supplémentaire pour agrandir un peu plus le magasin. À l'époque, l'étage était consacré aux livres scolaires et universitaires.
Donc exclusivement à des livres et en effet scolaires, comme vous le dites.
C'est ça. Le grand tournant, c'est la vente par le groupe Priva au groupe Bertelsmann, qui va requalifier le magasin sous l'enseigne Chapitre, avec une soixantaine d'autres magasins. Et effectivement, là, on a commencé à avoir un autre type de management et voir une autre direction prise avec une mainmise plus directe sur les magasins. Donc, c'est une époque où, malgré tout, on arrive quand même à faire des choses plus ou moins intéressante, mais on sent que l'avenir était un petit peu incertain. Et effectivement, au bout de quelques années, malgré l'argent qui a été investi dans le groupe, le groupe Bertelsmann, qui est un énorme groupe de communication existant en Europe, qui a RTL, M6, etc., n'a pas pu faire décoller les magasins les faire vivre suffisamment. Donc, on vend le magasin au milieu des années 2010 à un fonds d'investissement américain qui s'appelle Najafi Investissement. Et là, on comprend tout de suite que bon, les jours vont être plus difficiles encore et que même on va souffrir. Là, c'était en 2010. Donc, effectivement, en 2013, on apprend que les fonds manquent. On a plus, en fait, il n'y a plus d'argent en caisse, en clair, dans le groupe. Et que la fin est programmée. Tous les magasins sont à vendre. Et certains trouvent rapidement preneur, mais avec une date programmée qui est février 2014. Si ceux qui ne trouvent pas de repreneur avant cette date-là ferment. Il n'y avait pas de projet de reprise véritablement institué pour nous, même s'il y a eu quelques approches. Et donc, s'est constitué un groupe de salariés qui ont décidé déjà de regarder au plus près la situation, parce qu'on sentait bien qu'on allait, vraiment vers le dépôt de bilan. Et effectivement, plus la date de février 2014 approchait, et moins on avait de doutes, d'une part, sur la fermeture du magasin, d'autre part, sur l'absence de reprise. Donc, 12 salariés, 12 anciens salariés, donc, ont constitué un groupe de travail au départ, fin 2013, et un groupe véritablement constitué en 2014, et qui propose un plan de reprise sous forme de coopérative, sous forme de SCOP, société coopérative et participative, afin de reprendre l'activité du magasin.
D'accord. Ce serait quoi un petit peu l'ADN de la librairie Les Volcans, s'il y en a une, en tout cas, je dirais, ce qui vous anime en tout cas à être libraire aujourd'hui?
Alors, avant de parler de l'ADN, je dirais quelles étaient les motivations des salariés pour continuer l'aventure. Bien sûr. Nous, il nous paraissait inconcevable que ce lieu reste fermé. Et je crois que la première motivation, au-delà du fait de vouloir conserver son emploi, c'était d'abord de sauver le lieu. Ça nous paraissait extrêmement important. Je veux dire, c'est vraiment moteur dans cette aventure humaine-là.
Oui, parce que vous êtes très ancré à Clermont-Ferrand, on peut le dire.
Oui, nous, c'est une librairie emblématique de Clermont, mais bien au-delà. Je veux dire, on est connu au niveau national, au niveau régional, il n'y a aucun souci là-dessus. On est là, actuellement, la plus grande librairie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je te parle de librairie indépendante, bien entendu. Et on est actuellement la 16e librairie de France. Donc, le lieu, c'était important. Et pour revenir à l'ADN, je dirais que ce qui compte, c'est l'indépendance des libraires, des choix. Ce qui compte aussi chez nous, c'est vraiment l'offre et l'assortiment. Ça, c'est très important. Parce qu'on a le lieu pour. Et troisièmement, le troisième ADN qui me semble absolument fondamental et qu'on n'avait pas jusqu'alors, c'est l'animation. Pourquoi ? Parce qu'on considère que la librairie en général, et la nôtre en particulier, est un lieu de culture et un lieu de vie. C'est un endroit où il se passe quelque chose. Et s'il ne se passe rien, on n'a pas d'intérêt majeur à venir. Ce qui pousse, à notre sens, les curieux, et on s'adresse d'abord aux curieux, parce que notre but, c'est de favoriser la culture et la culture du livre vers le plus grand nombre. Il faut qu'il y ait une animation, il faut qu'il se passe des événements, et qu'ils ne soient pas seulement liés au livre. Ça peut être une exposition, ça peut être un concert de musique, ça peut être un récital de chant, ça peut être de la poésie, ça peut être une conférence. C'est un lieu de vie, une librairie. Et ça, c'est ce qui diffère d'une librairie des années 90 ou 2000. C'est plus seulement un lieu où on vend des livres, c'est un lieu où il se passe quelque chose au point de vue culturel. Ça, c'est de la grande différence.
Et quelque part, ça peut amener aussi de certes des adeptes, bien sûr, de la librairie, mais aussi de nouveaux curieux, j'imagine.
Oui, le but, c'est de faire pousser la porte de la librairie. C'est souvent le plus difficile. Alors, c'est assez facile avec, entre guillemets, les urbains, qui sont habitués à fréquenter quand même le centre-ville de Clermont. C'est moins évident avec les gens qui habitent en périphérie, et c'est encore moins évident pour ceux qui sont, pour le public, entre guillemets, éloignés du livre. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais ou très peu fréquenté les librairies ou qui viennent de manière occasionnelle, notamment dans le cadre scolaire, pour une fois chercher les livres scolaires. Voilà. Et notre but, justement, c'est de faire envie.
Oui, donner envie forcément de découvrir aussi des choses et de s'ouvrir intellectuellement, j'ai envie de dire.
Oui, la culture, c'est à la fois ce qui est le plus futile, notamment la culture livre, le plus futile et le plus indispensable. Le plus futile parce qu'objectivement, on peut s'en passer pour vivre. Hein. Ça fait pas partie des besoins fondamentaux comme manger, dormir, boire. Mais c'est aussi le plus indispensable parce que c'est ce qui permet de s'ouvrir au monde et de comprendre le monde qui nous entoure.
Les librairies aujourd'hui, elles sont fragiles. C'est un métier fragile, en tout cas, aujourd'hui en France.
C'est un métier, c'est une profession extrêmement fragile parce que c'est un métier où il y a très peu de rentabilité réellement. Donc, si vous prenez un exemple, je prends souvent cet exemple, mais si vous avez 10 magasins dans une rue, si vous avez un opticien et un libraire, le premier en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, c'est l'opticien, et le dernier, ça sera toujours le libraire. Donc, il n'y a aucun libraire qui s'enrichit, parce que ce n'est pas des métiers où on gagne bien sa vie, il faut le dire très clairement. On gagne assez mal sa vie en tant que libraire. C'est un métier passion. Hein, vous faites ça parce que vous en avez envie et que, quelque part, même si vous aimeriez être prêt, vous êtes prêt à faire le sacrifice un peu du salaire pour exercer un métier qui vous plaît véritablement.
Bien sûr. Économiquement, comment se portent les volcans ? Est-ce que 10 ans après, en tout cas, la création de la SCOP, on peut dire que ça a fonctionné ou c'est encore en dents de scie ?
Alors, depuis au bout de cette 10e année, la SCOP, librairie des volcans, se porte bien. Je n'oserais pas dire très bien, mais elle se porte bien.
Bon, c'est déjà ça, on peut le dire.
Oui, mais chaque année, le bilan comptable est positif. Donc, c'est-à-dire qu'on dégage des bénéfices chaque année. Donc, ça, c'est à signaler. Et cette année, ça sera le cas également. Donc, on est satisfait d'un point de vue comptable et d'un point de vue financier. Même si on ne cherche pas forcément à faire de l'argent, mais l'argent n'est pas un mot tabou ici, parce que, au contraire, je crois qu'on a une espèce d'exemplarité à montrer, c'est-à-dire qu'on peut montrer qu'on peut avoir une librairie ou un magasin ou une entreprise à visage humain et en même temps gagner de l'argent. C'est pas indissociable. Après, on a fait l'acquisition de notre deuxième magasin, donc je crois que ça prouve aussi qu'on avait une santé financière qui était plutôt solide, et qui se trouve à Rion, 25 rue du Commerce à Rion, qui s'appelle la Librairie Horizon, qui est la petite sœur des volcans, mais qui a vraiment une identité à part. Et donc, ce qui fait qu'au total, actuellement, il y a 48 salariés au sein de la SCOP Librairie des Volcans.
D'accord, c'est plus qu'avant le...
C'est plus qu'avant, tout à fait. Puisque avant, on était autour d'une... légèrement au-dessus de 30.
D'accord, ok. Bon, ça, c'est une victoire, on peut le dire. C'est que, en tout cas, ça indique une pérennité, en tout cas, dans l'établissement, en tout cas.
Alors, bon, le nombre de salariés n'est pas forcément signe de bonne santé. Mmh. C'est un indicateur de développement.
Je vous propose de passer un petit peu sur ce débat aujourd'hui, en tout cas c'est cette question qui brûle les lèvres de beaucoup de libraires. Comment redonner le goût à la lecture? Parce qu'on le voit, il y a de nombreuses études qui montrent que la lecture a vraiment perdu une sacrée vitesse, on peut le dire, depuis ces dernières années. Certes, il y a l'enjeu des réseaux sociaux, le fait qu'on ne soit plus hyper connecté, les écrans, tout ça. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait que la lecture est passée en second plan finalement aujourd'hui dans la vie des gens?
Je crois que vous l'avez signalé, le rôle des écrans est aujourd'hui majeur, notamment auprès des 12-20 ans. La dernière enquête Ipsos sur la lecture pour le Centre National du Livre indique quand même une baisse assez forte de la lecture chez les 15-18 ans, notamment chez les garçons, qui est encore plus marqué que chez les filles. Donc ça, c'est assez inquiétant. On sait l'importance... des écrans, sous quelle forme que ce soit, mais surtout du smartphone, va-t-on dire, pour ces tranches d'âge-là. L'écran est l'ennemi de la lecture, nous on en est persuadés. Ça peut être complémentaire parfois, mais on sait très bien que l'écran cannibalise le temps, et que le temps de lecture a vraiment, vraiment baissé. Ce qui va aussi avec la perte aussi de l'attention. Et inversement, le temps de visionnage et de visionnage des smartphones ne cesse d'augmenter. Donc c'est là où on a à la fois tout un travail à faire et à la fois des limites, parce que bon, c'est un peu une lutte vraiment de tous les instants, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, mais je crois qu'il ne faut pas désespérer, il faut mener ce combat. L'écran permet plein de choses, mais on sait que ce qu'on lit sur l'écran est moins bien retenu que ce qu'on apprend, ce qu'on lit sur le papier. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des neurologues qui le disent. Il y a plein d'études là-dessus, qu'à la fois le temps d'attention et que le temps d'imprégnation est bien meilleur sur la lecture que sur la on va dire le visionnage, j'appelle ça le visionnage de l'écran.
Même sur les liseuses, ça n'a pas en tout cas atténué ce problème.
Non. Alors le marché du numérique et du livre sur liseuse est en augmentation, mais c'est pas le raz-de-marée annoncé au début des années 2000, loin de là. Le marché du livre est très majoritairement axé sur le livre papier. Ce n'est pas là où ça joue véritablement. Et on assiste même à un retour, enfin, ou à une augmentation du livre audio. Hein, donc, mais ce qui est important, c'est plutôt le public adolescent. Mm-hmm. Parce que le public adolescent d'aujourd'hui, c'est le public d'adulte de demain. Et il faut extrêmement être... Enfin, faut être vraiment, vraiment vigilant sur le temps d'écran. Parce que on a très peu... Enfin, moi, j'ai très peur particulièrement d'un manque de culture générale qu'on sent quand même vraiment hélas de plus en plus important parce que pour lire il faut prendre du temps, c'est le temps, la notion de temps et je dirais d'effort est importante, et on est dans une société où le temps on en dispose moins et l'effort ben ça pose problème, donc ça fait un peu vieille école de dire ça, mais j'y crois véritablement. Alors après, il n'y a pas que du négatif non plus. On sait très bien que les réseaux sociaux peuvent être aussi prescripteurs de lecture de livres. Alors c'est le cas de Facebook, bien sûr, c'est le cas d'Instagram, hein, c'est vraiment le cas majoritairement sur TikTok.
Oui, il y a eu un vrai boost grâce à ce réseau social, en tout cas à la communauté de livres de TikTok.
Oui, oui, le BookTok, voilà, bien sûr. Alors, il faut vraiment dissocier un petit peu tout. Le BookTok, c'est intéressant, mais ce qui est mis en avant sur Instagram, c'est souvent par des booktokeuses, plutôt donc des filles, de lecture plutôt, entre guillemets, féminine, sur du roman, new romance, enfin ce qu'on appelle en mauvais français new romance.
Nouvelle romance.
Nouvelle romance, voilà, si on traduisait en français. Il y a aussi la dark romance. Donc c'est vraiment très très orienté. Donc, alors ça pose aussi un autre problème par rapport à TikTok. Parce que, il faut vraiment être très clair aujourd'hui, TikTok c'est un média chinois, et on sait très bien que derrière tout modèle économique chinois, il y a l'État chinois. Et on sait très bien que l'État chinois, ce n'est pas un État démocratique. Donc il ne faut pas être naïf par rapport à ça.
Bien sûr. Et oui, et puis aussi, on l'a vu, certains éditeurs même se basaient sur les tendances TikTok pour sortir certains livres au bon moment, mais ce n'est peut-être pas la bonne stratégie, enfin je ne sais pas si ça marche.
La bonne stratégie, c'est de sortir un bon livre.
Ça. Oui. C'est vrai que c'est plutôt mieux.
Alors là, ce dont vous me parlez, c'est plutôt un concept marketing. Alors, ça marche peut-être sur l'instant, mais je pense que sur le long terme, ça ne marche pas.
Ça ne crée pas de nouveaux lecteurs pérennes, on va dire, peut-être.
Non. Ça a l'avantage de pousser les personnes qui sont influencées positivement par les booktokeuses ou les instagrammeuses vers les librairies. Ça, c'est l'aspect positif. Après, en négatif, les garçons n'apparaissent peu ou pas. Là, on voit les garçons, les adolescents, c'est plutôt sur le manga. Et ça a été influencé, là, pour le coup, non pas par un réseau social, mais plutôt par le pass culture. On l'a longtemps appelé le place manga, ce n'est plus vraiment le cas, c'est beaucoup moins le cas, mais ça a été le cas. Bon, alors on pense qu'on veut du manga, on peut dire que c'est une culture, une sous-culture, ça c'est chacun voit midi à sa porte, mais ça existe, il faut en tenir compte. Comme il y a le pass culture, il y a aussi le pass région, enfin en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a aidé aussi à démocratiser le livre, ça il faut le dire. La pratique de ce qu'on appelle l'opération jeune en librairie, où les libraires interviennent en classe et viennent parler des livres, du métier de libraire, et qui accueillent des classes en librairie. Ça, nous, on trouve que c'est extrêmement positif. Et nous, on participe beaucoup à ce type d'opération. On y croit beaucoup. Parce qu'on pense que, justement, c'est pas inné de pousser la porte d'une librairie, que c'est pas évident. Quand vous êtes dans des lycées ou des collèges de centre-ville, ben, ça va, c'est plus facile. Quand vous êtes à 50 ou 80 km de Clermont, tout de suite, le nombre de lycéens ou de collégiens qui ont fréquenté une librairie se divise vite par deux ou par trois.
Donc ça pourrait être l'une des solutions, peut-être remettre de l'humain, en tout cas aller même chercher le public carrément, vous le dites dans les écoles, mais peut-être aussi...
Oui, je crois qu'il y a des efforts à faire auprès des écoles, déjà auprès du primaire, ça c'est certain, et des collèges et des lycées. Il y a plein d'opérations, hein, ça et là, qui existent, hein, donc le concours des lycéens, etc. Il y a plein de manifestations de ce genre-là. Après, la librairie, c'est, au sens large, c'est un monde. Chaque librairie a son identité propre. Donc c'est un monde qui existe, mais qui est très hétérogène. Vous avez des petites tailles, des tailles moyennes, des grandes tailles, des librairies spécialisées, des librairies généralistes. Donc il y a vraiment des librairies pour tous les goûts, pour toutes les tailles, pour tous les publics.
On va terminer peut-être avec quelques questions un peu plus légères.
Oui.
Voilà. J'aimerais vous demander déjà un livre justement pour recommencer ou pour commencer à lire. Est-ce qu'il y aurait un livre bonne porte d'entrée ?
Oui, pour les ados, je conseillerais Henri Bosco, L'enfant et la rivière. Typiquement pour les 10-12 ans, 12-13, juste à la sortie du primaire, pour l'entrée du collège, c'est parfait.
Ce serait quoi votre livre préféré, si vous en avez un en tout cas à recommander, un livre qui vous a marqué ?
Le livre que je conseillerais, ce serait le livre de Ginette Colinka, qui s'appelle Retour à Birkenau, qui est le récit d'une survivante de l'Holocauste. Alors Ginette Colinka était une amie déportée avec Simone Veil. Et qui raconte son expérience des camps. Donc ça, c'est un ouvrage marquant. Je crois que, et dans la même veine, je pense qu'il faudrait conseiller à tous les lycéens l'ouvrage de Primo Levi qui s'appelle « Si c'est un homme ». Pareil, sur l'expérience des camps, mais vu du côté masculin. Deux livres majeurs sur l'Holocauste qui racontent l'arrestation, surtout la déportation et la vie à l'intérieur, la survie. Plutôt, voilà, la survie. C'est majeur. Je pense que c'est l'une des questions majeures et qui, hélas, ne ferme pas un chapitre qu'on croyait oublié.
C'est, malgré la dureté, j'imagine, en tout cas, du livre, c'est un livre accessible, en tout cas, qui peuvent être lus, on va dire, par à peu près tous les publics.
Oui, ça peut être lu, très honnêtement, à partir de 14-15 ans, sans problème.
Bien sûr. Ouais. Oui, avec une certaine maturité, quand même.
Oui,
Au-delà
de 15 ans, sans problème, honnêtement. Il faut s'intéresser. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de clé d'entrée particulière. Je crois qu'il faut juste se laisser guider par le récit. Alors après, c'est vrai que ce type de récit, il ne faut pas le mettre aux mains des tout petits, enfin, des plus petits, parce que ce sont quand même des récits très forts, très, très puissants, très déstabilisants aussi. On peut en être marqué, mais à la limite, je veux dire, c'est peut-être même le but de ces livres-là.
Oui, en effet, le but c'est d'interpeller et de questionner, évidemment.
Je veux dire, d'une part, que ça existait, qu'il ne faut pas le nier, et que...
Peut-être pas l'oublier.
Il ne faut surtout pas l'oublier. C'était il y a 80 ans, mais on n'est jamais à l'abri du passé.
Pour revenir sur un livre peut-être plus local, est-ce que vous auriez un livre sur l'Auvergne, ou fait par un auteur auvergnat, que vous recommanderiez ?
Il y en a plusieurs, mais on pourrait citer éventuellement un ouvrage de Jean Anglade. Dans ses premiers livres sur Thiers, puisqu'il était originaire de Thiers, comme Les Ventres jaunes, par exemple, qui rencontre la saga des couteliers thiernois. Voilà, ça fait partie des ouvrages un peu... Jean Anglade, c'était l'un des auteurs tutélaires de l'Auvergne. Quoi. Donc, même lui ne se considérait pas forcément comme un auteur auvergnat, hein, ou qui ne traitait que l'Auvergne. Hein. Lui, il disait, ma religion, c'est pas l'Auvergne, mais ma religion, c'est l'homme. Donc, voilà. Mais sur l'Auvergne, il y a celui-là qui me vient en premier lieu.
Une dernière question, pardon. Au niveau des gros événements, peut-être, de ce 10e anniversaire, oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir, du coup, d'annoncer, déjà ?
Trois gros événements, le jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juin. Donc on aura la chance d'avoir plusieurs auteurs qui viendront parler de leur rapport au livre et leur rapport aussi à la librairie des volcans. D'une part, il y aura une rencontre entre Cécile Coulon et Marie-Hélène Lafont. Ensuite, je crois que c'est le jeudi, ça. Le vendredi, c'est... la rencontre entre Lydie Salver et Jean-Pierre Siméon, et le samedi, la venue de Eric Fotorino, qui viendra débattre avec nous sur le rapport au livre et à la lecture et le rapport à la scope.
Un dernier mot pour terminer, je crois que vous avez quelques remerciements, bien sûr.
Oui, bien entendu, la scope librairie Les Volcans ne serait pas ce qu'elle est sans le soutien qu'elle a eu en 2013-2014. Je pense notamment, bien sûr, à l'Union régionale des SCOP. Je pense à France Active Auvergne. Je pense à tous ceux qui ont financé par la plateforme Ulule, par exemple, en financement participatif, ou ceux qui ont versé de l'argent à l'association Les Amis de la Librairie des Volcans, beaucoup de Clermontois, de Puy-de-Moi ou d'Auvergnat. On ne les oublie pas, on pense à eux souvent. On pense aussi à cette manifestation qui a eu lieu un soir d'hiver de soutien à l'extérieur. Il y avait plus de 300 personnes dehors. Ça a toujours été un épisode marquant de notre construction. Je voudrais remercier les 12 personnes qui ont commencé le projet, qu'on appelait entre nous le projet fou. Le projet fou parce que c'était vraiment un dossier de grande taille. Hein. C'était vraiment une ambition de reprendre un lieu à la fois emblématique et puis qui nous engageait financièrement, parce que déjà nous on a versé quand même la totalité de nos indemnités de licenciement. Donc soit le projet marchait et on pensait récupérer un peu d'argent, soit ça ne marchait pas et on perdait tout.
C'était tout ou rien finalement.
C'était tout ou rien. Ouais. Mais je veux dire qu'on était très motivés par le projet, et surtout on n'avait pas de doute. Et quand on n'a pas d'autre, c'est quand même plus facile de s'engager que lorsqu'on est dubitatif ou hésitant.
Merci beaucoup, Philippe Pelade, d'avoir été avec nous sur RVA.
Ben, merci pour cette entrevue.
Avec plaisir. Je vous rappelle donc à nos auditeurs que ce sont les 10 ans donc, de la librairie des Volcans. N'hésitez pas à aller y faire un tour, bien sûr, pour flâner, acheter un livre ou même pour les différents événements de leur anniversaire. Très bonne journée à vous.